Bien, mais bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Donc je m'appelle Jean Audouze, puisqu'il faut que je me présente par moi-même. Voilà, je suis astrophysicien au CNRS et aussi j'ai des fonctions à l'UNESCO, mais peu importe. Alors je suis heureux de parler devant le professeur Dur, avec lequel nous avons tous les deux appris l'astrophysique à l'Institut d'astrophysique il y a un petit moment, on va dire. Voilà, il y a longtemps, voilà. Et très heureux de faire partie du programme de Cinéma Science et Madame Marie-Hélène Beauvais, qui est ici, qui est la directrice de la communication du CNRS, qui a bien voulu m'inscrire dans son programme. Alors je vous dis tout, hein. Cette conférence, c'est la promotion de ce bouquin qui s'appelle « Merveilleux cosmos » et je vais essayer de vous convaincre d'éventuellement au moins de le feuilleter et encore mieux de l'acheter, évidemment. Donc c'est une opération bassement commerciale. Mais enfin, ceci étant, on va essayer de faire... Je vous propose un petit voyage. On part du Soleil, qui est donc une étoile, comme vous devez le savoir, et on va se promener jusqu'aux limites de l'univers. Alors voilà le Soleil. Le Soleil est donc une boule de gaz de 700 000 km de rayon, dont la température extérieure est de 5700 degrés, et qui est animée, vous voyez, il y a beaucoup de mouvements dans ce... J'espère que vous arrivez à voir. Peut-être qu'il y a un petit peu trop de lumière. Ce sera mieux quand même si on baisse la lumière. Attendez, parce que je crois que vous verrez. Peut-être voilà, je crois que vous voyez peut-être. Alors vous voyez par exemple ces grandes arches. Donc il y a du gaz qui suit. Il y a des champs magnétiques très intenses à la surface du Soleil qui guident la matière et ça fait des merveilleuses arches que l'on peut voir dans de nombreuses photos. Vous voyez des endroits où effectivement le gaz est plus chaud et est soumis à des mouvements plus importants. Et donc voilà le Soleil grâce auquel alors, nous tirons notre énergie et qui donc brille avec cette luminosité depuis 4,5 milliards d'années. Alors à une question que l'on peut se poser, c'est combien de temps va-t-il rester comme ça? Eh bien environ entre 4 et 5 milliards d'années. Donc effectivement, il se produira quelque chose de désagréable pour nous dans à peu près 4 à 5 milliards d'années. La diapo suivante vous montre un détail. Vous voyez donc, ça fait des images assez belles de ce gaz qui est donc dirigé par les champs magnétiques. Suit un peu comme un aimant, hein, si vous voulez, vous avez de la limaille de fer. Eh bien, la limaille de fer, ce sont ces jets de gaz qui vont évidemment... qui vont se poursuivre. Et par exemple, les aurores boréales que l'on peut voir dans les régions polaires eh bien, sont dues à l'interaction de ces gaz qui sont émis donc par le Soleil et qui viennent frapper le gaz de l'atmosphère pour donner ces draperies très très belles. J'espère que vous aurez l'occasion, lorsqu'on fait un voyage par exemple, on va à Tokyo, on va au contraire à Los Angeles, qu'on va vers les pôles, eh bien, on peut avoir la chance de voir des aurores boréales. Alors, nous allons donc faire un petit tour dans le système solaire, qui est un peu notre environnement. Donc, le système solaire est constitué de 8 planètes. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais vous raconter l'histoire de Pluton, hein, qui a été donc détrôné et qui n'est plus considéré comme une planète. Je peux vous dire pourquoi. Donc, maintenant, nous n'avons plus que 8. Et donc, il y a 4 planètes comme la Terre, rocheuses, avec... alors, Mercure n'a pas d'atmosphère, c'est la plus petite, c'est la plus proche du Soleil. Vénus, la Terre et Mars. Et elles sont, sur cette photo, elles sont exactement dans les proportions. C'est-à-dire que, par exemple, Mars a un rayon qui est la moitié de celui de la Terre, et donc une masse qui est 10 fois inférieure à celle, 8 fois inférieure à celle de la Terre. Donc vous voyez qu'elles sont extrêmement différentes. Seule la Terre a un satellite qui est la Lune, et la présence de ce satellite stabilise la Terre sur son orbite, et on attribue à la présence de la Lune le fait que la vie a pu se propager parce que les conditions physiques, les conditions de température, ont été stabilisées grâce à la présence de la Lune autour, qui orbite donc autour de la Terre. Donc, et puis, si, en ce qui concerne Mars possède deux petits satellites d'une trentaine de kilomètres de diamètre qui orbitent autour d'elle et qui s'appellent Phobos et Deimos. Alors, je vais vous montrer quelques-unes des images. Il y en a un peu plus dans ce bouquin, mais je vous en montre quelques-unes pour vous montrer à la fois la très grande variété de conditions physiques. Par exemple, Vénus et la Terre ont à peu près le même rayon, mais vous voyez qu'il y en a une qui est... La température à la surface de Vénus est à peu près de 400-500 degrés, alors que sur la Terre, bien sûr, ça varie entre moins 20, moins 30 et 40, mais disons la température moyenne entre 10 et 20 degrés Celsius. Alors voilà, si vous voulez, quelques images. D'abord une image d'un... Voilà ce que l'on peut voir si on était à la surface de Vénus, avec 20% de la surface de Vénus est occupée par des reliefs. Il y a une montagne, ce n'est pas celle-là, mais qui fait à peu près une dizaine de kilomètres d'altitude. Et puis vous avez des coulées de lave. On s'aperçoit que du caractère assez lisse de la surface de Vénus, eh bien on a l'idée que le volcanisme est d'origine assez récente. Et l'atmosphère de Vénus. Vénus tourne sur elle-même très lentement, à peu près en 240 jours. Alors que l'atmosphère de Vénus tourne sur elle-même en 4 jours. Donc, et ça, c'est la différence de vitesse de rotation entre l'atmosphère de Vénus et la planète elle-même. Eh bien, elle reste encore mystérieuse, on ne sait pas l'expliquer. Alors, la température très élevée à la surface de cette planète provient d'un effet de serre très important, parce que le gaz carbonique... Il y en a que un peu moins de 1 pour 1000 dans l'atmosphère terrestre. Eh bien, là-bas, c'est 98% de l'atmosphère de Vénus qui est sous forme de gaz carbonique. Et puis, il y a des nuages de gaz d'acide sulfurique qui sont à une quarantaine de kilomètres d'altitude, qui capturent elles-mêmes aussi le rayonnement solaire. Là, vous savez ce que c'est que l'effet de serre, bien sûr. On est dans un pays... où on peut utiliser cet effet, à savoir qu'en plein hiver, bien le soleil, ou en plein été, peu importe, le soleil, donc le rayonnement solaire, traverse la verrière, le verre, mais le rayonnement infrarouge, qui est donc réémis, puisque c'est le sol ou l'intérieur de la serre est réchauffé, eh bien, ce rayonnement infrarouge est arrêté par le verre, dans le cas d'une serre, ou par le gaz carbonique ou le gaz sulfurique, dans le cas de Vénus. Alors, je vous montre quelques détails de la surface de Mars. Alors, en voyant ces reliefs, maintenant, on sait qu'il y a eu, au début de l'histoire de Mars, il y a eu beaucoup d'eau, et cette eau a disparu parce que, justement, la masse de Mars est 8 à 10 fois inférieure à celle de la Terre, et donc une grande partie de l'eau a pu s'évaporer, mais on a les traces dans le relief, les traces de la présence d'eau à sa surface. Alors, Mars est intéressant, pourquoi ? Parce que, justement, en raison... de sa petite masse, eh bien, on a une sorte de photographie de ce qu'a pu être la Terre au tout début de son histoire. Parce que, justement, il y a une grande loi dans l'astronomie, c'est que les objets de petite masse évoluent plus lentement que les objets de grande masse. Et donc, pourquoi on est intéressé par cette planète, d'une part parce qu'elle est relativement proche de la Terre, qu'on peut espérer y aller, et la deuxième raison, c'est que, d'abord on sait qu'il y a eu de l'eau, on est en train de reconstituer l'histoire, enfin je dirais pas géologique, mais marsologique de Mars, et on sait que pendant à peu près 500 millions d'années, un peu moins d'un milliard d'années, eh bien, l'activité de Mars a été très importante, et puis éventuellement rechercher des matériels, des roches, et voir s'il n'y a pas des molécules biologiques, voire des bactéries. Et ce sera donc, ça c'est le programme du futur, qui est programmé entre, disons, le retour des échantillons entre 2020 et 2030. Alors voilà aussi une autre image qui a été prise par Pathfinder en 1999. Eh bien, vous avez l'impression, on se croise on peut imaginer qu'on est dans un désert américain, hein, la couleur rouge de la planète Mars provenant des oxydes de fer qui donnent cette couleur rouge au sol de cette planète. Donc, vous voyez, par exemple, si vous allez au nord du Chili, il y a des régions qui ressemblent tout à fait à celles-ci. Alors, les planètes géantes sont au nombre de 4. Donc, elles sont séparées de la région des planètes rocheuses ou telluriques par ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes, qui est une planète avortée, qui n'a pas pu les morceaux, les cailloux qu'on appelle des planétésimes n'ont pas pu se coaguler ou ont été fractionnés par les effets de marée induits par Jupiter. Et donc, dans les astéroïdes, il y en a des tailles de toutes les tailles. Et vous savez qu'à la mi-août ou à la mi-novembre, le phénomène des étoiles filantes provient justement de la poussière qui existe entre Mars et Jupiter. Et la Terre traverse de temps en temps un nuage de poussière, et ces poussières, en tombant sur la Terre, eh bien, donnent le phénomène des étoiles filantes. Alors, là, vous avez une photo de Jupiter qui a 7000 km de rayon, donc qui est le dixième du rayon du Soleil, et qui est la planète la plus importante du système solaire, qui tourne très vite sur elle-même. Hein, je vous ai indiqué tout à l'heure que Vénus tournait sur elle-même en 240 jours. Il faut seulement 10 heures pour que Jupiter fasse un tour sur elle-même. Vous avez Saturne et ses anneaux, sur lesquels je vais revenir, Uranus et Neptune. Et Neptune n'ayant été découvert... Uranus ayant été découvert en 1781, fin du 18e, et le Neptune au milieu du 19e siècle. Je vais essayer de vous donner le sens des distances relatives dans le système solaire. Imaginez que le Soleil se réduit à un pamplemousse de 7 cm de diamètre, une grosse balle. Et la Terre va orbiter autour. La Terre ne sera qu'une tête d'épingle qui va tourner à 15 mètres de ce pamplemousse. Et à 0,4 cm au-dessus, vous avez encore un grain de poussière qui tourne autour et qui va être la Lune. Alors avec dans cette échelle, Mars sera à 25 mètres, Jupiter à peu près à 400 mètres, Saturne à 1 km, Uranus va être à 1,5 km, et le système solaire va s'arrêter à peu près à une dizaine de kilomètres, vous avez, si le Soleil est un pamplemousse. En revanche, la première étoile qui s'appelle Proxima du Centaure, eh bien, elle se trouve dans cette échelle, elle se trouve à 5000 km. Donc le système solaire est vraiment très isolé du reste de la Voie lactée. C'est-à-dire que c'est vraiment une petite chose Il faut 5000 km, enfin, dans cette échelle. Si je le compte en années-lumière, il faut 4 années-lumière pour aller à Proxima du Centaure. C'est-à-dire que vous faites coucou, ça prend 4 ans pour arriver sur Proxima du Centaure et 4 ans pour que ça revienne. Donc les communications sont un petit peu difficiles parce que ça prend 8 ans. Donc, sur le problème de est-ce qu'il existe des civilisations intelligentes, la réponse est peut-être, mais la probabilité qu'on puisse communiquer avec eux est impossible parce que rien ne se déplace plus vite que la vitesse de la lumière. C'est donc pour que vous ayez un peu un sens des proportions. Et donc, dans cette image, Jupiter aurait la taille d'une petite cerise. Donc voilà Jupiter, vous savez que donc sa surface est animée de mouvements très très importants. Je vous ai dit qu'elle tournait sur elle-même très rapidement. D'ailleurs, sa forme n'est pas totalement sphérique, elle est légèrement aplatie en raison justement de sa très grande vitesse sur elle-même. Le paradoxe, si vous voulez, du système solaire, c'est que la masse est pratiquement concentrée dans le Soleil, mais l'énergie de rotation du système solaire est concentrée sur Jupiter et Saturne. C'est Jupiter et Saturne qui possèdent l'énergie de rotation du système solaire. Là, ici, il y a, je ne sais pas si vous le voyez au fond, ce qu'on appelle la grande tache rouge, qui a été découverte dès le XVIIe siècle par Cassini et quelques autres, et donc qui est une structure qui tourne autour de Jupiter, mais qui demeure stable à sa surface. Alors, Jupiter a quatre satellites principaux. Par exemple, vous voyez la tache, je pense, de l'une d'entre elles, qui est Io, qui tourne à faible distance et qui tourne très vite autour de Jupiter. Vous avez ensuite Europe, Ganymède et Callisto. Et Io et Europe, vous trouverez des images dans le livre. Alors, on arrive à Saturne. Si vous avez... Évidemment, moi, j'ai l'œil sur l'écran, donc je le vois. Ici, il y a une toute petite tache, un tout petit point. Eh bien, ce petit point, ce n'est pas une faute du cliché, c'est la Terre. C'est-à-dire que la Terre, c'est ça, comparé aux anneaux de Saturne. Donc, un tout petit point donc, ce que l'on voit... à proximité de l'anneau le plus externe de Saturne. Alors vous savez que la découverte de ces milliers d'anneaux date de pas très longtemps, puisque c'est en 1979-1980 que la sonde Voyager a pu prendre des images. Ces images-là sont d'origine assez récente. Et donc, avant, on connaissait 2-3 anneaux, et maintenant, on en connaît des milliers. Et... La dynamique de ces anneaux demeure encore quelque chose qui n'est pas totalement comprise. Je vous montre Encelade n'est pas le satellite le plus important de Saturne. Le satellite le plus important de Saturne, c'est Titan. Titan sur lequel une sonde en 2004, qui s'appelle Huygens, a été lancée par un satellite qui s'appelle Cassini. Elle est tombée... en parachute, donc elle a pu fonctionner pendant quelques heures et prendre des images du sol de Titan. Alors pourquoi on s'intéresse à Titan ? D'une part parce que c'est le plus gros satellite de l'ensemble du système solaire, il a pratiquement la taille de Mars, et surtout parce qu'il possède une atmosphère riche en gaz, méthane, éthane, etc. Et donc on peut imaginer que si on réchauffait cette atmosphère, on aurait une atmosphère un peu semblable à la nôtre. Donc une sorte de Terre gelée, si vous voulez. C'est pour ça qu'on s'intéresse à Titan. Alors Encelade est très intéressant. Alors ça, c'est une photo qui a été prise par justement la sonde Cassini qui, depuis 2003, tourne autour de Saturne et visite les différents... satellites, il y en a plus de 60 qui gravitent autour de Saturne. Alors ça, c'est un objet qui a 500 km de diamètre, c'est-à-dire pas très grand, hein. Un peu moins que la distance Paris-Bordeaux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit des geysers, c'est-à-dire qu'il semble qu'il y ait en dessous de la croûte externe, il y aurait donc de l'eau, et cette eau passe de temps en temps par les défauts de la surface et produit des geysers du genre de ceux que l'on peut visiter en Islande. Donc un objet extrêmement intéressant. Je n'ai pas le temps de faire toute la... Mais ce qui est ce qu'il faut vous souvenir du système solaire, c'est qu'il y a une variété absolument phénoménale. D'un objet à un autre, ils ne se ressemblent pas. On croit où ils apparaissent ou à peu près au même endroit, et puis ils ont à peu près la même taille. Et il y en a un qui va être riche en glace, un autre qui va être craquelé. Et donc une variété de relief, de forme, de morphologie extrêmement importante. Alors, ça, c'est une photo qui a été prise avec le télescope spatial d'Uranus. Et maintenant, on sait que non seulement Saturne, mais également les trois autres, c'est-à-dire Saturne, Uranus et Neptune, ont des anneaux. Et là, vous voyez les anneaux d'Uranus, et avec cette couleur bleutée qui est due au fait qu'il y a du méthane à la surface d'Uranus. Et puis, vous voyez quelques-uns des nombreux satellites qui orbitent autour d'Uranus. Je vous montre enfin la planète Neptune. Ça, c'est une image qui a été prise en 1989, lorsque la sonde Voyager, après avoir exploré l'environnement de Jupiter et Saturne, a été reconfigurée en plein vol pour aller visiter Uranus et Neptune. Alors, vous voyez qu'il y a une sorte de tache. Alors, la différence entre Neptune et Jupiter, c'est que Neptune, d'abord, est de taille plus modeste. Elle est de couleur bleue due à cette présence, vraisemblablement, de méthane et de molécules, disons, biologiques, de molécules organiques simples. Et puis, alors, cette structure que l'on a vue en 1989, eh bien, elle a disparu. On a refait des images en 1994. Elle a disparu, donc elle n'a pas eu la permanence qu'à la grande tache rouge de Jupiter. Enfin, je vous montre une comète. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de cette comète qui a illuminé le ciel en 1996. En avril 1996, on la voyait bien dans la direction du nord-nord-ouest, en début de nuit. C'est la comète la plus brillante et la plus massive du XXe siècle, donc qui a été découverte par Hale et Bopp, qui sont deux astronomes amateurs américains qui l'ont découverte en 1995, et elle a brillé de façon phénoménale en 1996-97. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les comètes proviennent vraisemblablement de la périphérie du système solaire. Le système solaire sera entouré d'une sorte de nuage qu'on appelle nuage de Oort, dans lequel il y aurait des cailloux en moyenne une dizaine de kilomètres de diamètre. Et de temps en temps, parce qu'une étoile passe pas très loin, ou par un effet de fronde, eh bien, un de ces cailloux va se diriger rapidement vers le Soleil. Et à mesure qu'il se rapproche du Soleil, sa queue, c'est-à-dire la matière qui forme son noyau, eh bien, va se sublimer et former. Alors là, vous avez la queue de poussière et la queue qui est bleue, c'est une queue de gaz qui est rectiligne et qui suit donc les lignes de champ. Et là, par contre, elle est courbée, celle-là, courbée par l'effet gravitationnel induit sur le noyau de cette comète. Alors, c'est pas la comète dont on a parlé le plus. Celle dont on parle le plus, c'est la comète de Halley, qui revient tous les 76 ans, qui est revenue en 1986, mais qui était beaucoup moins lumineuse que celle-ci. Celle-ci, elle ne reviendra, enfin, à mon avis, où il faudra attendre plusieurs milliers d'années avant qu'on la revoie, alors que la comète de Halley... Éventuellement, on la reverra encore, sauf que à son dernier passage, elle a perdu une quantité de matière assez importante, donc sa luminosité sera encore plus faible. Donc voilà pour le système solaire qui constitue la première partie de ce livre. Et Et il y a bien sûr davantage de photos que ce que j'ai le temps de vous montrer. Et donc, on va, si vous voulez, faire un deuxième pas et aller justement à des milliers de kilomètres, en supposant qu'on est toujours sur ce petit grain de poussière, là où cette petite tête d'épingle, on va à des distances supérieures à 10 000, 20 000, que sais-je, kilomètres, et on va visiter le monde des étoiles et du milieu qui entoure ces étoiles. Alors pour ce faire, les photos que vous verrez ont été dues principalement à deux instruments. L'instrument de droite, c'est le télescope spatial Hubble, qui a eu un diamètre de 2 mètres et qui a été lancé en 1990, qui fonctionne très bien depuis 1993 et donc qui tourne à raison toutes les 10 heures. Il fait une rotation autour de la Terre et une partie des photos qui sont rassemblés dans ce livre proviennent de cet instrument qui a permis à l'astronomie observationnelle de progresser de façon considérable. Pourquoi ? Parce qu'il est à 450 km d'altitude, donc il est au-dessus de l'atmosphère, donc il n'y a pas de problème de météorologie, de brouillage de la lumière par l'atmosphère, donc il donne des images extrêmement résolu, c'est-à-dire dont le grain est très très faible, et donc c'est un instrument qui nous a permis vraiment de progresser de façon considérable au cours de la décennie 90 et la décennie 2000. Et puis à côté, vous avez quatre télescopes de 8 mètres qui forment ce qu'on appelle le très grand télescope de l'ESO, c'est-à-dire l'organisation européenne. Le télescope européen austral, et ces quatre, lorsqu'on fait interférer ces quatre télescopes qui ont une base à peu près sur à peu près 500 mètres, eh bien on arrive également à avoir l'équivalent d'un télescope de 16 mètres de diamètre. Donc c'est à la date d'aujourd'hui le télescope le plus grand au monde, sachant que les Américains d'un côté et les Européens de l'autre envisagent des télescopes qui auront 30 mètres pour les Américains, 60 mètres pour les Européens de diamètre. Donc pourquoi on cherche des diamètres de plus en plus importants ? C'est qu'à mesure que le diamètre croît, on peut voir des objets de luminosité de plus en plus faible. Et donc, évidemment, on peut aller aussi de plus en plus loin dans l'exploration de l'univers. Alors une belle photo qui est donc la couverture de ce livre, qui est donc une partie du gaz interstellaire qui existe entre les étoiles. Donc vous avez ici du gaz qui est donc de couleur un carmin, qui caractérise l'hydrogène étant l'élément le plus abondant dans l'univers, c'est l'élément de base, c'est l'élément le plus léger, il y en a dans l'eau, bien sûr, l'eau c'est l'hydrogène, oxygène, il y en a partout, et cette couleur carmin caractérise, c'est pas une fausse couleur, c'est vraiment la couleur exacte, caractérise donc l'hydrogène du gaz interstellaire. Alors vous avez en bas du diagramme et avec cette forme qui représente on appelle la tête de cheval. Pourquoi ? Pour ceux qui jouent aux échecs, c'est un pion de cavalier, la tête de cheval. Et puis, vous avez ici de la poussière. Alors, pourquoi il y a de la poussière ? On sait que s'il y a de la poussière, c'est que si vous regardez le nombre d'étoiles en haut et le nombre d'étoiles en bas, il y en a relativement peu. C'est donc comme si vous avez une espèce de gros nuage qui obscurcit la lumière qui se trouve derrière. Donc, un nuage de poussière et qui a cette forme tout à fait particulière. Alors ce nuage se trouve dans la nébuleuse d'Orion. Orion, vous connaissez, à mon avis, c'est une des rares constellations que tout le monde connaît, il y a quatre étoiles qui forment un quadrilatère, et au milieu, il y a trois étoiles très brillantes qui forment ce qu'on appelle le baudrier d'Orion. Et donc, ce gaz interstellaire a été pris dans la direction d'Orion. Je vais vous montrer une autre région intéressante. Là, vous avez ce qu'on appelle une pouponnière d'étoiles, c'est-à-dire qu'il y a des étoiles qui sont en train de se former, qui forment une espèce de grappe, de couleur rouge.
Ce sont des étoiles qui se forment et autour, vous avez du gaz, le gaz qui a été vraisemblablement éjecté au moment où se forment les étoiles. Et évidemment, par la pression de rayonnement qu'elles exercent sur le gaz, eh bien, elles l'éjectent. Et donc, vous avez en bas et puis à droite, vous avez du gaz qui est éjecté par cette pouponnière de gaz que l'on trouve dans la constellation du Serpent. Alors justement, voilà, ça je pense qu'on est capable, on peut le voir à l'œil nu ou avec une paire de jumelles, c'est ce qu'on appelle l'amas des Pléiades. C'est un amas d'étoiles qui, il y en a pas très gros, on en voit à peu près une 10-12 étoiles, qui sont entourées justement de ce gaz de couleur bleue qui est encore éjecté par ces étoiles, qui sont des étoiles jeunes. Elles ont à peu près 400 millions d'années. Alors vous allez me dire 400 millions d'années, c'est un temps très élevé, mais à l'échelle du Soleil, par exemple, c'est moins de 10% de l'âge du Soleil. Donc c'est un amas d'étoiles qui s'est formé récemment et qui est assez spectaculaire, qui se trouve dans la direction de la constellation du Taureau. Là maintenant, je vous montre la fin de deux étoiles de faible masse, qu'on appelle des nébuleuses planétaires. Alors voilà ce que sera le Soleil dans 6 milliards d'années. Je vous ai dit que dans, mettons, 5 milliards d'années, il devient ce qu'on appelle géante rouge, c'est-à-dire que son enveloppe va se dilater, son cœur va se contracter, au centre de la température de son centre va passer de 15 millions de degrés à peu près à 100, une centaine de millions de degrés, et donc induire des réactions différentes de celles qui se passent actuellement. Actuellement, les réactions qui se passent, qui sont à l'origine de l'énergie solaire, c'est la transformation de l'hydrogène en hélium. Lorsque dans 5 milliards d'années, le cœur du Soleil sera capable de synthétiser l'hélium en carbone. Et 1 milliard d'années après cette phase géante rouge, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire que l'enveloppe va continuer à se dilater. Elle donne ces structures qui sont assez spectaculaires, que l'on peut voir assez facilement avec des petits télescopes, et auxquelles on a donné le nom assez, qui n'est pas très heureux, puisque ça n'a rien de planétaire, c'est simplement une nébuleuse qui se trouve autour d'une étoile. Alors il y a une autre, je n'ai pas résisté de vous montrer une autre, qui est assez, également très spectaculaire. On peut imaginer que là, il n'y a pas eu l'éjection d'une seule fois. Donc l'étoile centrale a éjecté plusieurs fois a éjecté plusieurs fois du gaz et donne cette espèce de structure qu'on appelle l'œil de chat ou l'œil de la chouette, suivant ceux qui la regardent. Et donc vous avez ces structures assez... Alors, cette étoile, donc le résidu qui est là, va devenir ce qu'on appelle une naine blanche, c'est-à-dire qu'elle va être très de dimension très, très petite. On va passer d'un rayon 100 à un rayon 1, c'est-à-dire que, par exemple, la naine blanche Soleil aura une dimension analogue à celle de la Terre. Et puis, donc, c'est justement en raison de cette contraction, sa surface va être très chaude, 50 000 degrés. Puis au cours, là, il lui arrivera plus rien, sinon de se refroidir très très lentement au cours du temps et se fossiliser et disparaître, disons, de l'univers visible. Mais il restera toujours là en termes de gravitation. Alors je vous montre un amas globulaire. Là aussi, on peut voir des amas globulaires très facilement dans les nuits des étoiles avec des petits télescopes. On peut voir des amas globulaires. Ce sont donc des grappes de quelques millions entre quelques centaines de mille et quelques millions d'étoiles. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi je vous montre cet objet ? Parce que ce sont les étoiles les plus anciennes, disons, de l'univers. C'est-à-dire que ces étoiles-là ont un âge qui est au moins supérieur à 10 milliards de degrés, peut-être jusqu'à 13,7 milliards de degrés. À mon avis, pas plus que 13, mais entre 10 et 13 milliards d'années. Donc ce sont les premières générations d'étoiles que vous voyez formant les amas globulaires. Donc je vous ai... Les amas globulaires, les étoiles que vous voyez là, sont des étoiles toutes de petite masse qui évoluent lentement, comme je vous l'ai dit. Alors que je vais vous montrer maintenant, par contre, des étoiles qui évoluent rapidement. une étoile qu'on appelle, enfin c'est plus une étoile, c'est le reste, enfin ce qui s'est passé après l'explosion d'une étoile que l'on a vue en 1045, 1043, enfin, ce qu'on a vu, le Hong, ce sont les astronomes chinois qui ont reporté là, en Occident, on n'a pas de signe qu'elle a peut-être été vue, mais on n'a pas rapporté l'observation. Et pendant 8 jours, les Chinois l'ont vue en plein jour, tellement elle était brillante. Cette explosion a eu lieu dans la direction de la constellation du Taureau, et elle avait, elle est à 6000 années-lumière, donc il s'est écoulé. Elle a eu lieu maintenant, il y a 8000 ans ou à peu près. Et donc, vous voyez donc le gaz qui a été donc émis par cette explosion. Les couleurs sont simplement traduisent la différence de température, le rouge étant plus froid que le bleu qui est plus chaud. Donc vous avez une température à peu près 10 à 12 000 degrés au milieu, et puis des régions qui n'ont plus que 3 à 4 000 degrés à la périphérie. Ça se déplace, cette chose-là, le gaz se déplace à peu près à 1000 km par seconde, donc ça reste encore un objet extrêmement vivace, au centre duquel il y a ce qu'on appelle un pulsar. C'est un objet qui est... Donc, là, je vous rappelle que la naine blanche avait à peu près 6000 km de diamètre, de rayon. Et un pulsar, lui, son diamètre est beaucoup plus petit. C'est de l'ordre de 10 km, 5 à 10 km. Pourquoi ? Parce que la matière, si vous voulez, lorsque... elle forme une naine blanche, les atomes sont aux touches. Bon, lorsque nous, on est fait de vide, hein, nos atomes, il y a énormément de distance entre les atomes. Lorsque la matière est sous forme de naine blanche, les atomes qui constituent la matière sont, disons, collés les uns à côté des autres. Mais on peut faire mieux si, par exemple, les protons absorbent les électrons, c'est-à-dire les particules chargées positivement absorbent les électrons qui gravitent. Eh bien, on a ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Alors là, ce ne sont plus les atomes qui sont aux touches tous, ce sont les noyaux d'atomes qui sont collés les uns aux autres. Alors, comme j'aime bien faire des petites analogies, eh bien, imaginez ici, nous sommes dans une salle de, je ne sais pas moi, elle fait 50 mètres béton à peu près. Eh bien, imaginez un plus petit qu'un petit pois, vraiment la moitié d'un petit pois qui est au milieu, et puis vous êtes alors ça ce serait le noyau, et les électrons seraient au bout de la salle, c'est-à-dire qu'il y a un facteur 100 000 entre la dimension du noyau d'un atome et le cortège des électrons qui gravitent autour de ce noyau. Hein, donc en fait un atome c'est du vide, hein, puisque toute la masse de l'atome est concentrée dans une petite bille dont le diamètre est 100 000 fois plus petit que celui de l'orbite des électrons. Alors voilà ce qu'on a appris en étudiant la nébuleuse du crabe. On connaît les pulsars, on les a vus les premiers en 1967 grâce à la radioastronomie. Voilà une supernova qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'astronomie. Elle a été observée en 1572 par Tycho Brahe, et Tycho Brahe a écrit un livre qui s'appelle « La Nova Mirabilis » et qui a montré... Il faut savoir qu'à l'époque, c'était la physique aristotélicienne qui l'emportait, à savoir qu'il avait décrit l'univers comme un monde sublunaire, disons le monde de la matière, puis un monde supralunaire fixe dans lequel il ne se passait rien. Et là, Tycho Brahe voit une étoile qui se met à exploser. Et donc, évidemment, ça l'a rendu assez perplexe. Et évidemment, il faut attendre Galilée. Et disons, lorsque Galilée va observer à la fois les cratères de la Lune avec sa lunette astronomique et les satellites de Jupiter qui tournent autour de Jupiter, qui forment un autre système, un mini-système solaire, pour que, effectivement, la vision aristotélicienne de l'univers se vole en morceaux. Alors voilà un morceau de la Voie lactée. Je vous rappelle que ce rouge carmin provient d'hydrogène. Et puis vous avez des régions où effectivement il y a des densités, soit il y a beaucoup de matière qui obscure. C'est un peu comme les nuages. Pourquoi un nuage devient noir ? Eh bien, c'est simplement qu'il y a beaucoup de, molécules d'eau qui obscurcissent, disons, qui obscurcissent la lumière du soleil. Eh bien, c'est la même chose. Donc, alors là, on se projette. Les objets que je vous montre, ce n'est plus là, on ne raisonne plus en fonction d'une étoile, mais 150, 250, 1000 milliards d'étoiles. Donc, la galaxie d'Andromède, elle est intéressante à regarder. Pourquoi ? Parce que c'est la sœur jumelle de notre galaxie. Donc, on peut imaginer que les gens qui font de l'astronomie sur cette galaxie nous voient à peu près, nous voient de cette façon-là. Là, vous avez une galaxie satellite qui se trouve ici, qui est une galaxie elliptique qui orbite autour de la galaxie d'Andromède. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez que l'univers est en expansion, donc en général, les galaxies s'éloignent les unes par rapport aux autres, mais il y a des exceptions, en particulier lorsqu'elles sont liées, qu'elles forment une sorte de groupe. Andromède n'est qu'à 2 millions d'années-lumière, et les deux galaxies se rapprochent l'une de l'autre, et je vous montrerai tout à l'heure, enfin non, pas longtemps, une image de ce que seront ces deux galaxies dans quelques milliards d'années, c'est-à-dire lorsque, effectivement, les deux galaxies seront se mélangeront, et ça se produira. Donc, elles se dirigent l'une vers l'autre avec une vitesse relative de 50 km par seconde. Donc, faites le calcul. Je suis un peu paresseux, donc je ne vais pas le faire tout de suite, mais c'est à peu près quelques milliards d'années pour que les deux galaxies se fondent l'une dans l'autre. Alors, une très belle galaxie, enfin, pour moi, c'est ma préférée parce que vraiment, elle est magnifique. C'est ce qu'on appelle la galaxie Sombrero, qui se trouve dans la direction de la constellation de la Vierge. Donc, vous avez le bord du chapeau qui est dû à beaucoup de matière qui est concentrée dans le disque. Puis, vous avez ce halo qui forme donc le haut du chapeau. Et vous avez cette structure assez, assez spectaculaire. Je vous en montre quatre autres. Alors celle-là, c'est la roue dentelée, donc vous avez un centre, et puis au lieu de faire un bras spiral qui donne une espèce de spirale comme ça, mais ça s'est tellement enroulé l'un sur l'autre que ça forme une sorte de cercle. Ça, c'est un objet très intéressant parce qu'il émet en X beaucoup d'énergie, c'est ce qu'on appelle Centauri, dans la direction de la constellation du Centaure. Et donc, c'est un objet extrêmement énergétique qui émet une quantité de matière tout à fait considérable et qui donne cette espèce de structure. Puis vous avez deux autres galaxies que vous avez. Je crois que j'ai dû me tromper, j'ai dû répéter deux fois la même. Donc, veuillez me pardonner. Mais là, cette erreur n'est pas dans le bouquin. Donc, voilà. Alors, une autre. On arrive presque à la fin, je vous rassure tout de suite. Après, vous allez me poser des petites questions, j'imagine, j'espère. Donc voilà la galaxie du Tétard. Donc il y a une interaction entre cette galaxie spirale et une galaxie naine en haut. Et par effet de marée, eh bien, un des bras de cette galaxie donne cette espèce de traînée. Donc une traînée donc vous avez là un grand nombre d'étoiles et de gaz interstellaires qui forment cette traînée très très longue, hein, puisqu'elle s'étend sur à peu près plus de 500 000 années-lumière, la dimension de cette traînée. Et les taches que vous voyez là, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des galaxies qui donc se trouvent à la dans le voisinage de cette galaxie. Celle-ci, on l'appelle la galaxie des chiens de chasse, ou si vous voulez, c'est un peu l'analogue à un jeu qu'il peut y avoir dans les foires. Vous avez un espèce de petit moulin avant, et donc ça tourne très très vite sur soi-même, et ça donne. Il y a donc un des bras qui a été capturé par cette galaxie plus petite. Donc vous avez un bras qui va jusque-là, et puis le reste qui donne cette structure assez, assez spectaculaire. Les antennes, ce sont également deux galaxies qui se sont, disons, encastrées l'une dans l'autre. Là, vous en avez une ici et l'autre qui rentre là-dedans. Et on donne à cette structure le nom de galaxie des antennes, avec du gaz, évidemment, qui est à la périphérie. Alors voilà ce que seront... Voilà, une image. Alors, je vous rassure tout de suite, ce sont des fausses images. Ça a été pris par la... par le satellite Spitzer qui a donc qui est encore en cours d'opération. Et donc imaginez, donc ça sera plutôt la nôtre, parce que la nôtre est un peu plus de masse, un peu plus petite que celle de gauche, qui est de masse un peu plus importante. Donc imaginez deux galaxies spirales qui vont s'encastrer l'une dans l'autre et qui vont donner ces espèces de structures assez compliquées. Et donc on peut imaginer que voilà le sort de ce que sera la Voie lactée et la galaxie d'Andromède dans plusieurs milliards d'années. Là, je n'ai pas résisté de vous rajouter un amas de galaxies. Donc chacun des points représente une centaine de milliards, peut-être plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Donc si vous faites un calcul, il y a un nombre d'étoiles sur ce diagramme extrêmement, tout à fait considérable. Il y a plusieurs milliards de galaxies dans l'univers observable, et chaque... Donc il y a peut-être de l'ordre du millier de milliards d'étoiles comme le Soleil. C'est pour nous donner un peu le sens de ce que nous représentons au niveau de l'univers. Et je termine par là, à peu près, en vous montrant donc les... Ça, c'est une image du rayonnement fossile, c'est-à-dire qui remplit cette pièce, qui remplit tout l'univers. Alors au début, on croyait qu'il était isotrope, c'est-à-dire que l'intensité du rayonnement était la même, quelle que soit la ligne de visée. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une petite différence d'à peu près 1/30 millième entre les zones, disons, de couleur bleu foncé et la couleur rouge. Il y a un écart de 1/15 millième, 1/30 millième d'un côté, 1/30 millième de l'autre. Et en étudiant... répartition des variations angulaires entre ces différentes irrégularités, on arrive à déterminer des paramètres cosmologiques comme l'âge de l'univers, la densité de matière visible, de matière dite noire. Alors je vous donne donc la formule. Là, l'univers a 13,7 milliards d'années, avec donc trois chiffres significatifs, ce qui est quand même... en astronomie, une prouesse, pour le moment, si l'interprétation de ces images est la bonne. Et deuxièmement, donc il y a 3% du contenu énergie-matière qui est sous forme d'énergie, de matière comme vous et moi, matière visible, matière nucléaire, 27% qui est sous forme de particules dont on n'a pas encore, le LHC les cherche, mais on ne les a pas encore découvertes, qu'on appelle la matière sombre. Et puis, au-delà, il y a 70% de quelques... Alors, on appelle ça l'énergie du vide, l'énergie sombre. Ça, on ne sait pas. En fait, 70% de quelque chose qui est inconnu. Et donc, ça, c'est une image qui a été prise en 2001, par le satellite WMAP. Et on va avoir bientôt des images encore plus piquées, encore plus près, avec une amélioration par un facteur 100 de la résolution de cette image. Et ça va être publié en vraisemblablement début 2012, les résultats du satellite Planck, qui est donc exploité par l'Europe. Ça, c'est un satellite américain, qui donc Wilkinson Microwave Probe. Et on attend donc les résultats de Planck dans à peu près une année. Voilà. Et puis pour terminer, donc évidemment, merveilleux cosmos, c'est celui-là, mais il y en a deux autres. Pour les âmes qui... donc ça, c'est d'un abord facile. Je veux dire, ce sont des photos commentées. Le ciel à découvert, c'est plutôt ça rassemble les contributions des astronomes français à l'occasion, donc on l'a écrit à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie de l'an dernier. Et puis un petit bouquin tout petit, 90 pages, où ce qu'on appelle une disputatio, c'est-à-dire avec Thierry Magnien, est un prêtre du diocèse maintenant de Toulouse, avec lequel nous avons confronté nos visions de l'univers.
Merci de m'avoir écouté.